Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, vous écoutez Confidentiel. On est ensemble jusqu'à 15h30 pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. Lui, il faut le dire, c'est plutôt notre rayon de soleil de cette période de fête. Tous les ans, c'est le rendez-vous. Les films de Louis de Funès accompagnent les familles à Noël. « Je suis le Père Noël », disait-il même dans « Le gendarme se marie » en 68. De Funès a une place particulière dans le cœur des Français. Ses films sont éternels et pourtant, lui-même n'y aurait jamais cru. Pourquoi Louis de Funès a-t-il atteint les sommets si tard dans sa carrière? Qui est Louis intime? Avec sa femme Jeanne? Avec ses enfants? Avec ses proches? De Funès a transformé l'histoire de la comédie en France. Vous allez voir que rien n'est dû au hasard. Dans l'ombre de ce succès, révélation sur un acharné de travail et un grand angoissé. Confidentiel de Funès, c'est tout de suite. Et juste après, je retrouve Bertrand Dical, journaliste et auteur de l'excellente biographie Louis de Funès, Grimace et gloire chez Grasset. On est le 25 janvier 1967 au Cellier, près de Nantes. Sur les hauteurs d'une berge qui domine la Loire, c'est là que trône un magnifique édifice du XVIIe siècle, le château de Clermont. Ce château, il est en vente. Et dans quelques heures, c'est un célèbre acteur français, peut-être même le plus célèbre, et que les habitants de la région connaissent bien, qui va l'acheter. Cet acteur, c'est Louis de Funès. Le domaine compte 50 hectares de parc, des fermes, des dépendances. C'est un véritable havre de paix. Loin du monde et loin des hommes. Le château, qui est classé monument historique, est la propriété des héritiers de la famille de Maupassant, dont Jeanne Barthélemy, la femme de Louis de Funès. De Funès, 52 ans, est au sommet de sa popularité. La Grande Vadrouille est sortie 2 mois plus tôt et c'est un immense triomphe. Je rappelle que 17 millions de personnes verront le film. Le comédien a connu une gloire tardive, mais ça y est, il est désormais une star qui vit en fait assez mal cette célébrité. Car Louis de Funès n'aspire qu'à une chose, une vie simple, avec ses 2 fils et sa femme Jeanne, l'amour de sa vie. Il ne supporte pas d'être séparé d'elle. Elle l'accompagne partout. Elle gère ses affaires, elle l'attend dans sa loge au théâtre et elle est toujours derrière la caméra quand il tourne. Jeanne a cru en lui depuis le début, même quand il n'était qu'un petit pianiste qui ambiançait les nuits parisiennes, nous y reviendrons. Alors, en ce 25 janvier 1967, pour lui témoigner son amour et sa reconnaissance, Louis offre donc le château de son enfance à sa femme. L'endroit où Jeanne de Funès, née Barthélemy, a connu ses plus grandes joies familiales. C'est là aussi qu'ils célèbrent leurs fiançailles en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et c'est là surtout qu'ils se réfugieront en famille dès qu'ils en auront l'occasion. Car Louis de Funès, côté coulisses, Louis de Funès dans l'intimité, c'est un homme pudique, réservé, timide et anxieux. Très anxieux même. La peur de manquer lui restera chevillée au corps tout au long de sa vie. Il faut dire qu'avant de goûter à la vie de château, le comique français le plus célèbre a longtemps mangé de la vache enragée. Petit retour en arrière. 1924, à Courbevoie, près de Paris. Le petit Louis de Funès de Galarza a 10 ans. Ses parents ont émigré d'Espagne quelques années plus tôt. À Madrid, son père était avocat. Sa mère, Léonore, elle, est une fille de la grande bourgeoisie madrilène. La famille a pris la fuite pour la France avec des rêves de fortune. Même si, rapidement, chez les deux Funès, c'est plutôt la malchance qui règne. Carlos, avec la confortable dot de sa femme, s'est un temps improvisé diamantaire. Sauf qu'il est tombé sur un escroc qui s'est envolé avec toutes les économies du couple. Avec Marie et Charles, la grande sœur et le grand frère de Louis, tout le monde se sert désormais dans un appartement modeste. C'est Léonore qui fait bouillir la marmite. Avec son accent espagnol, ses grands airs et un bagou extraordinaire, Léonore, c'est une comédienne née. Louis dira toujours qu'elle a été son professeur en la matière. Ses colères, ce sont carrément de véritables spectacles avec de l'outrance, avec du drama. D'ailleurs, grâce à ce talent, elle a trouvé un bon filon. Pour gagner sa vie, elle rabat les dames de la bonne société chez des marchands de fourrures. Léonore s'y prend mieux que personne pour leur faire croire qu'un vison les transforme en Greta Garbo. De son côté, quand il n'est pas au café, Carlos, le père, s'essaye maintenant aux émeraudes de synthèse. Sauf qu'il est daltonien. Et le vert des pierres tire plutôt sur le jaune. Après les diamants, c'est un nouvel échec professionnel, un peu dur à encaisser. Après 20 ans passés à Paris, toute la famille vit encore dans la misère. Carlos fait un choix terrible, celui de disparaître. Un beau matin de 1924, on retrouve le long d'un canal son chapeau, ses chaussures et une note qui dit « Je préfère le suicide au déshonneur ». Louis de Funès perd son père et se retrouve rapidement loin de sa mère. Léonore, qui est seule, n'a plus le temps de s'occuper de lui. Elle l'envoie en pension à Coulommiers. Louis, alors collégien, souffre de cet éloignement affectif très soudain. Même si à Coulommiers, il jouera sa première pièce et apprendra le piano. La pension, le collège, le manque de la famille, le premier contact avec l'artistique, 6 ans s'écoulent ainsi. Louis rentre à Paris et là, un nouveau coup de théâtre se produit chez les deux Funès. Léonore apprend par le plus grand des hasards qu'en réalité, Carlos, son mari, n'est pas mort. En fait, le père de Louis a mis en scène son suicide pour refaire sa vie au Venezuela, toujours dans l'espoir de faire enfin fortune. C'est dingue. Léonore compte bien ramener son bonhomme de gré ou de force. Elle embarque pour l'Amérique du Sud en 1930. Quand elle revient à Paris, c'est bien avec Carlos, mais il est toujours aussi pauvre et en plus, il est malade. Il a attrapé la tuberculose à Caracas. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il mourra 4 ans plus tard. Louis de Funès a 20 ans et il vient de perdre son père pour la seconde fois. On est en 1942, de Funès a 28 ans. Paris est sous l'occupation allemande. Jusque-là, le jeune homme, qui a déjà le don de distraire ses camarades comme personne, il faut le dire, n'a fait qu'enchaîner les petits boulots. Photographe, fourreur, comptable, étalagiste. Mais avec son humour potache, il est constamment renvoyé. Pourtant, lui s'estime chanceux. Comme il est chétif et fils de tuberculeux, il a échappé à la mobilisation, au contraire de son frère Charles, mort au champ d'honneur dès les premiers jours de guerre. Louis rêve déjà de devenir comédien. Avant la guerre, il s'est même inscrit au Cours Simon, c'est une célèbre école de théâtre parisienne. Mais les temps sont durs et il faut bien vivre. Le soir, Louis joue donc du piano dans un bar de la Madeleine, l'Horizon. Sans savoir déchiffrer la musique, rien qu'en reprenant à l'oreille ce qu'il entend à la radio, il a réussi à se composer un répertoire de 200 à 300 morceaux. Ce n'est pas trop, car malgré le couvre-feu imposé en cette période de guerre, il joue toutes les nuits de 17h à 5h du matin, devant des noctambules snobinards, des truands ou des officiers allemands, à qui il fait certains soirs, disons-le, reprendre en chœur des airs américains. Au bar de l'Horizon, Louis de Funès partage le clavier avec un autre pianiste, cheveux gominés et petite moustache, un certain Eddie Barclay. Les deux hommes sympathisent, ils ont une passion commune pour le jazz et pour Louis Armstrong. Et justement, son compagnon connaît un conservatoire vers Montmartre où ils enseignent ce style de musique. Louis de Funès est complexé par son niveau de piano. Il a toujours voulu apprendre le solfège et l'harmonie. C'est l'occasion. Rendez-vous est pris. Charles Henry, le professeur qui dirige l'école, fait passer une audition au jeune homme. Et c'est la surprise. Le jeu virtuose du jeune pianiste le laisse bouche bée. Il se dit qu'il n'a rien à lui apprendre. Si bien qu'il convoque tout le monde, ses élèves et même sa secrétaire, à venir voir le phénomène, comme il dit. Tout le monde est stupéfait. La secrétaire de Charles Henry a même un coup de foudre immédiat pour le musicien. Elle s'appelle Jeanne Barthélémy et elle demande tout de suite des cours particuliers. Louis finit par l'inviter à dîner à l'Horizon, un soir où il joue. Une petite table est installée le long du piano. Il veut impressionner cette jeune femme de bonne famille dont lui aussi est tombé amoureux. Il commande du champagne, du homard, le patron le prévient, il va y laisser sa paix. Mais ce moment est trop important. La soirée se passe bien entre Louis et Jeanne, sauf qu'un événement inattendu va venir perturber le dîner. Une jeune femme, avec l'air sombre, vient de faire son entrée à l'Horizon. Elle marche droit vers le piano Elle gifle Louis de Funès devant tout le monde. Un peu étourdi, en fait, il avait oublié qu'il lui avait donné rendez-vous ce soir-là. Mais plutôt que de créer un drame, de Funès cabotine et transforme la scène en un véritable sketch. La salle est morte de rire. Jeanne, d'abord étonnée, finit elle aussi par s'en amuser. Elle vient de faire son entrée dans la vie de Louis de Funès, pour ne plus jamais en sortir. L'été suivant, Jeanne et Louis sont en vacances près de Nantes. Elle a une tante et des cousins qui vivent pas très loin, au château de Clermont. Elle veut leur présenter son ami. On lui fait un accueil chaleureux. Louis tombe tout de suite sous le charme de cet endroit et des gens qu'il rencontre. Le jeune homme, à la timidité maladive, vient de trouver une nouvelle famille. C'est presque une seconde naissance pour lui. On commence à parler mariage, mais il y a un hic, et pas des moindres. Louis est déjà marié, et il a un fils de 5 ans. Le divorce entre Louis de Funès et Germaine, sa première femme, n'a pas posé de problème. Elle a refait sa vie, et lui a juste demandé qu'on ne lui retire pas leur fils, Daniel. Louis accepte. Il ne reverra son premier garçon qu'une fois, beaucoup plus tard, un soir où il viendra le voir au théâtre. On est en 1956. Louis de Funès et Jeanne sont mariés depuis maintenant 13 ans. Leurs fiançailles, on l'a dit, ont été célébrées au château de Clermont. Après son mariage avec Jeanne, Louis a continué comme il pouvait à joindre les deux bouts. Le jour, il fait des vitrines pour les grands magasins. Le soir, il joue toujours au bar de l'Horizon. Un matin, alors qu'il rentre d'une nuit de piano-bar, il croise sur le quai du métro Villiers un ancien élève du cours Simon, le comédien Daniel Gélin, qui ne l'a pas oublié. Louis a un peu mis de côté ses rêves de comédie. Daniel l'encourage au contraire à reprendre le théâtre. Et justement, il y a un rôle qui se libère dans la pièce qu'il met en scène. Il n'y aura qu'une seule représentation, pendant laquelle de Funès volera la vedette à tout le monde. Il n'a qu'une phrase avant de baisser le rideau, mais elle suffit pour le faire remarquer. Cette rencontre impromptue avec Daniel Gélin vient de changer le cours de son existence. Louis de Funès entame une carrière de comédien au théâtre comme au cinéma. En 1945, il ouvre et referme une porte dans La Tentation de Barbizon. C'est le début d'une période de petits rôles qui va durer plus de 10 ans. Entre-temps, Louis et Jeanne ont eu deux fils, Patrick en 1944 et Olivier en 1949. À Paris, la famille habite un petit deux pièces de la rue de Maubeuge. Louis a refait lui-même la cuisine et la salle de bain. Ce n'est pas encore le faste, mais le temps des vaches maigres s'éloigne un petit peu. En marge de la vie parisienne, toute la famille de Funès passe ses vacances au château de Clermont. Les pieds dans le sable de la Loire, une canne à pêche à la main, son fils Olivier à ses côtés. Là, voilà, dans ce contexte, Louis se sent revivre. Il est au calme, loin de l'énergie qu'il déploie à Paris, sur scène, mais surtout en dehors, à trouver des cachets, à arpenter les Champs-Élysées pour tomber sur un producteur qui sortirait du Fouquet's, à attendre avec angoisse que le téléphone finisse par sonner. Quand il est à Clermont, avec Jeanne et avec les enfants, mais aussi avec sa belle-famille, il n'a plus la boule au ventre. La grand-mère de sa femme est devenue sa plus précieuse confidente. Ici, il fait rire tout le monde. On s'en fiche qu'il ne soit qu'un figurant dans les films. Sa famille, c'est son premier public. Auprès des gens du coin, il emmagasine les caractères et les expressions qui viendront plus tard nourrir ses personnages. Pendant ces années difficiles, Clermont représentera une parenthèse enchantée dans un avenir incertain. Jeanne, elle, sera son cap à Louis de Funès, celle qui ne doutera jamais de ses talents de comédien et qui fera en sorte qu'il ne renonce surtout pas, dans l'espoir un jour de percer. Et ça finit par payer. On est au printemps 1956. Louis de Funès a 42 ans. Il a déjà tourné dans une soixantaine de films, des petits rôles d'abord, puis des seconds. Le comédien s'est surtout fait un nom au théâtre avec La Puce à l'oreille de Feydeau, puis avec Ah, les belles bacchantes, où il triomphe tous les soirs, aux côtés de la troupe des Branquignoles. À ce moment-là, le réalisateur Claude Autant-Lara pense à lui pour un nouveau film qui se déroule sous le Paris de l'Occupation. Les rôles principaux seront tenus par Jean Gabin et Bourvil. Leurs personnages doivent traverser la capitale avec des valises remplies de viande. Louis de Funès incarne, lui, un boucher qui tire profit du marché noir. Face au géant Gabin, De Funès est mort de trouille. Et le trac n'est pas passé quand la scène débute. Le comédien donne la réplique à un Gabin qui tempête, hurle et prend toute la place. Mais Louis donne le change. Il finit par tempêter à son tour et ne se laisse pas impressionner. Dans cette scène d'anthologie, De Funès parvient à se hisser au niveau du jeu de Gabin. De Funès n'a que 7 minutes à l'écran dans ce film. Mais cet écran, il le crève littéralement. Cette scène de la traversée de Paris vient de le faire entrer dans la légende du cinéma français. Face à Bourvil, face à Gabin, Louis de Funès vient de prouver qu'il pouvait jouer dans la cour des grands. Même si pour ça, il va encore falloir attendre un peu. Après la traversée de Paris, les choses changent pour Louis de Funès. Il a désormais droit à des premiers rôles dans des petites comédies, comme Ni vu ni connu. Son personnage de pêcheur braconnier ne passe pas inaperçu. Pour l'instant, il s'en contente. Il est tellement heureux de pouvoir vivre enfin convenablement de son métier. Il n'est pas encore une star, mais au moins, c'est un acteur reconnu. Maintenant, c'est Jeanne, sa femme, qui gère sa carrière. Elle l'accompagne partout. Sur les tournages, il a besoin d'être assuré. Elle est là. Et elle gère aussi les conflits avec les réalisateurs. On dit d'ailleurs qu'il joue mieux quand elle est là. Ce n'est pas très étonnant. Louis est meilleur quand il a un public. Devant les caméras, ça rigole bien. Mais côté coulisses, c'est beaucoup moins drôle. Jeanne de Funès a désormais son petit surnom, la Panthère. Madame n'hésite pas à sortir les griffes quand il faut défendre les intérêts de son mari. Et elle a une obsession, la lumière. Il faut que le public voie à l'écran les magnifiques yeux bleus de Louis. Elle est très, voire trop, interventionniste sur les plateaux. D'ailleurs, on le reproche au comédien qui ne devrait pas laisser sa femme se mêler de tout comme ça. Le couple de Funès a vite une sale réputation dans le milieu, mais il s'en fiche. Et puis de toute façon, les mondanités, Louis, il n'aime pas ça. Tant qu'il a son petit jardin entouré de gens simples, il est bien. Les De Funès viennent d'acheter une maison de campagne près de Paris, dans les Yvelines. Louis a une passion pour le jardinage et pour son potager. Quand il apprend un rôle, il le répète en désherbant ou en plantant des radis. À défaut de pouvoir se rendre au château de Clermont le week-end, les De Funès sautent dans leur déesse dès que la représentation du vendredi soir est terminée et ils partent à la campagne. Paris la semaine et Auvers le week-end. Côté habitation, la famille a la bougeotte. À chaque nouveau palier franchi dans la carrière de Louis, un nouvel appartement. Après le modeste deux pièces de la rue de Maubeuge, les De Funès emménagent en 1960 rue de Rome, près de Saint-Lazare. Louis joue alors Oscar au théâtre et c'est un triomphe. 2 ans plus tard, les voilà au parc Monceau, à deux pas de chez leur grand ami Gérard Oury. L'ancien comédien rencontré sur un tournage après-guerre est devenu réalisateur et il a de plus en plus la cote. Et au contraire de Louis, Gérard, lui, adore les mondanités et les dîners en ville. Il les lui racontera longtemps, tous les matins par téléphone, avec beaucoup de détails. Les deux hommes viennent de tourner ensemble dans Le crime ne paye pas. Et pour De Funès, c'est certain, Gérard est un auteur comique. Il lui conseille de persévérer. Et justement, Oury a déjà une petite idée pour son nouveau film. Il a pensé à associer De Funès à la star du moment, Bourvil. Le seul bémol dans ses années d'avant la gloire, la mère de Louis qui meurt le 29 octobre 1957. Très pudique, il est dévasté par la mort de Léonore. Il a entouré cette date sur un calendrier accompagné de ce petit mot. Maman s'en est allée ce jour-là. Je penserai à elle toute ma vie. Malgré son immense chagrin, il est monté sur scène le jour même pour elle, comme un dernier hommage à celle qui, je vous le rappelle, lui aura transmis le virus de la comédie. Jeanne dira d'ailleurs qu'il n'a jamais aussi bien joué que ce soir-là. On est à l'été 1964. L'été 1964. Il a été patient, Louis de Funès, côté carrière. Mais ça y est, il fête ses 50 ans et enfin, la gloire lui sourit. Grâce au film Pouic Pouic, sorti l'année d'avant avec Jacqueline Maillan et Mireille Darc, les producteurs associent désormais le nom de Funès au succès. En 64, en l'espace de 4 mois, De Funès va faire tourner son génie comique à plein régime. C'est un été qui marquera un tournant dans la carrière de Louis, mais aussi dans l'histoire de la comédie en France. Le Gendarme de Saint-Tropez en juin, Fantomas en juillet, Le Corneau en août, De Funès, qui a attendu le succès pendant plus de 20 ans, le rencontre en seulement quelques semaines pour tout le restant de sa carrière et même bien au-delà. Pour Le Gendarme, Louis fait appel à la troupe des Branquignols qu'il connaît bien et qui sait lui renvoyer la balle. De Funès n'a pas d'égal quand il s'agit de trouver des idées de gag. Pas d'égal non plus quand il s'agit d'être exigeant avec le travail. On n'hésite pas à retourner une scène après visionnage quand on estime qu'on peut faire mieux. Quand l'équipe quitte Saint-Tropez, tout le monde est heureux du tournage et des compétitions de pétanque entre les prises, mais personne n'imagine le succès que le film va rencontrer. Et encore moins Louis, qui n'a même pas le temps de se poser un peu à Clermont, parce qu'il enchaîne avec Fantomas. Pour ce film, il joue avec l'une des stars de l'époque, Jean Marais. Et la puissance comique de De Funès est devenue telle qu'il va littéralement l'éclipser. Devant la caméra, dans un rôle a priori secondaire, celui du commissaire Juve, le comédien en fait des tonnes. Tout ce qu'on aime et tout ce qu'on attend de lui. Les années de théâtre, les heures de piano-bar, tout ressurgit devant la caméra, c'est visuel, c'est rythmé, et Jean Marais est exaspéré. Il dira être devenu le figurant le mieux payé de la place de Paris. Malgré les tensions, Louis de Funès n'a jamais eu autant confiance dans ses talents de comédien. Il est serein. Deux films en boîte et il vient de confirmer qu'il a tout d'une star. Alors maintenant, eh bien il entend être considéré comme tel. Quand le tournage du Corneau débute le 31 août 1964, le bourreau de travail de Funès n'a pas pris une seconde de repos. Il retrouve son ami Gérard Houry et André Bourvil, avec qui il a joué dans La Traversée de Paris. Le courant passe avec Bourvil. Il rit beaucoup entre les prises. Une amitié naît entre eux. Sur le plateau, quand Louis n'est pas dans un bon jour, le seul capable de le dérider, c'est Bourvil. Il suffit que le Normand lui demande « Alors, ça va mon petit poussin ?» pour que ça reparte. Le début du tournage est en apparence bon enfant. Oui, en apparence seulement. Parce qu'en réalité, quand il est à l'hôtel et qu'il visionne les rushs, Louis est inquiet. Il trouve qu'il n'y en a que pour Bourvil. Avec Jeanne, il compte même le nombre de répliques qu'ils ont chacun. Et Bourvil en a plus, De Funès est furieux. C'est fini, la place du faire-valoir, déjà qu'il est payé trois fois moins. Maintenant, lui aussi veut être la vedette. Un matin, Louis prend Gérard Houry entre quatre yeux et il lui demande plus de temps d'écran. Sinon, il fera le service minimum, la grève de l'expression. Pas le choix, le metteur en scène se résigne et il lui accorde des séquences supplémentaires, mais muettes. Celle où Louis de Funès, avec tout son génie burlesque, prend une douche à côté d'un catcheur, restera dans les annales. La suite du tournage se déroule sans accroc, surtout que Bourvil fait un cadeau à son ami. Il lui offre de partager le haut de l'affiche avec lui. Ce geste touchera profondément Louis, qui gagne cet été-là ses galons de star de la comédie française. De Funès est encore sur le tournage du Corneau quand Le Gendarme de Saint-Tropez sort sur les écrans, mi-septembre. Et c'est un succès immédiat. 7 millions de Français se précipitent pour le voir. Fantomas lui emboîte le pas début novembre, nouveau carton, avec 5 millions d'entrées. Mais rien ne présage encore du triomphe du Corneau. Quand le film de Gérard Houry sort en mars 1965, ce n'est pas moins de 11 millions de personnes qui se déplacent, du jamais vu. Un phénomène culturel est né. À 50 ans, Louis de Funès vient de devenir le nouveau pape du cinéma français. Après cet été 1964, où il aura tourné coup sur coup, Le Gendarme, Fantomas et Le Corneau, Louis de Funès ne quittera plus jamais le haut de l'affiche. Désormais, il peut choisir ses partenaires et surtout choisir ses films, qui seront tous de grands succès jusqu'à la fin de sa vie. Ça fait des années que Louis griffonne des idées de gags. Et là, il a eu la bonne idée. Un patron d'un restaurant étoilé qui malmène son personnel tout en faisant des ronde-jambes à ses clients prestigieux. Nourri par ses années de piano bar, il écrit même une ébauche de scénario. Ce sera le grand restaurant. Sur le plateau, il cherche en permanence des gags, quitte à interrompre le tournage. Le soir, il les soumet à Jeanne et à ses fils, Patrick et Olivier. Patrick étudie désormais la médecine. Olivier, lui, encore adolescent, s'essaye au cinéma. Son père vient de le faire jouer dans le deuxième volet de Fantômas. On le retrouve également sur le plateau du grand restaurant, où Louis impose à tous une discipline de fer. Avec ce film, De Funès change de registre. Plus question de le diriger, là, c'est lui qui donne le ton. C'est cette ambiance que Louis de Funès aime. C'est comme ça qu'il aime travailler. Quand il plaisante avec des gens qui ne retiennent pas leur rire, c'est là qu'il donne le meilleur de lui-même. Et ça paye. Le grand restaurant sera vu dans les salles par 4 millions de personnes. Le comédien est au sommet, même si le meilleur reste à venir. Gérard Houry, réalisateur du Corneau, veut réunir à nouveau son tandem fétiche. C'est à ce moment-là de l'histoire qu'arrive la grande vadrouille. Quand le film sort en salle en décembre 66, personne ne croit qu'il va dépasser le succès du Corneau et, je le rappelle, ses 11 millions d'entrées. Surtout avec un sujet aussi grave que l'occupation. Mais ce n'est pas un nouveau succès, c'est carrément un triomphe. Le film est un chef-d'œuvre. Il est immédiatement plébiscité par la presse et par le public. La Grande Vadrouille fera 17 millions d'entrées. Un record qui tiendra 42 ans. Jusqu'en 2008 et les 20 millions d'entrées de Bienvenue chez les Ch'tis. On est en janvier 67. La Grande Vadrouille est donc en train de remplir les salles quand Louis de Funès offre à Jeanne le château de son enfance, Clermont. Ce château, ce n'est pas parce que Louis prend la grosse tête. Lui, le gamin des faubourgs parisiens, l'enfant d'immigrés espagnols. Non, c'est avant tout parce que c'est ici, à Clermont, qu'il se sent le mieux. Et comme il a désormais les moyens de se faire ce plaisir, il offre ce havre de paix à sa famille. Il dira « C'est là que j'ai connu les gens que j'aimais le plus au monde. Ça aurait été une chaumière, je l'aurais gardée aussi. » À 53 ans et malgré le succès, Louis de Funès entend bien continuer à tout donner. Mais d'abord, il doit se ressourcer. Ce sera désormais à Clermont qu'il fera ses petits breaks. Alors que sa notoriété explose, Louis ne jure que par cet endroit authentique, où on le connaissait avant la gloire. Les gens ici ne trichent pas avec lui. Chez Marie Clément, la petite auberge de bord de Loire, où il a ses habitudes, il aime toujours autant taper la discute autour d'un verre de blanc. Ici, il parle de pêche, pas de cinéma. Louis a entrepris d'importants travaux dans le château et il ne fait appel qu'aux artisans du coin. Et quand les fêtes approchent, il offre des vélos aux gamins du village. Alors qu'à Paris, il a une réputation de radin. Au cellier, il est généreux et plein de reconnaissance. Il n'a pas oublié son enfance modeste et ses années de labeur. Il dira « Je suis devenu une star, mais je n'ai jamais cessé d'avoir faim. La nuit, je me réveille en sursaut avec un terrible creux à l'estomac. » Jusqu'à la fin, Louis sera cet enfant angoissé. Les entrées ont beau être au rendez-vous, la série des gendarmes qui se poursuit, les grandes vacances, le petit baigneur, Hibernatus, l'homme orchestre, Joe. Quand les idées noires reviennent, même le jardin de Clermont ne suffit plus à le calmer. Jeanne décrète alors qu'il est temps de remonter sur scène. Le théâtre, c'est mon métier, reconnaît Louis. C'est là qu'il se régénère. En 1971, il reprend donc Oscar, 10 ans après les ovations du théâtre de la Porte Saint-Martin. L'expérience difficile du tournage de l'adaptation sur grand écran ne l'en a pas dissuadé. Le réalisateur Édouard Molinaro avait eu la mauvaise idée de ne pas rire quand Louis jouait et en plus de le diriger. Cette fois, Oscar se joue au Palais Royal et avec Olivier, le fils comédien. Quand il joue au théâtre, Louis ne fait rien d'autre de sa journée. Il reste au calme pour garder toute l'énergie dont il a besoin le soir. Dans sa loge, le rituel n'a pas changé depuis ses premiers passages sur les planches. Olivier raconte « C'est là que mon père se concentrait studieusement avant de rejoindre la scène. Il se maquillait tout en répétant son texte, puis s'allongeait une demi-heure pour chasser les pensées parasites de la journée et vaincre le trac qui l'envahissait. Un trac nécessaire, disait-il, au surpassement de soi. » Louis approche de la soixantaine et il ne se ménage pas. Le théâtre tous les soirs, les répétitions et les tournages dans la journée, il tire sur la corde. Mais il veut profiter à fond de la gloire tant qu'elle est là. Comme un enfant qui a peur de manquer. Et il est persuadé que le succès ne durera pas. Quand Gérard Oury vient lui proposer de retrouver Bourvil pour la folie des grandeurs, Louis est aux anges. Mais il n'aura pas le temps de retrouver son complice. André Bourvil, malade, s'éteint quelques semaines avant le début du tournage. De Funès est très affecté par cette disparition. Il perd un partenaire de jeu, mais surtout il perd un ami. Il est tellement déprimé qu'il n'a pas le courage de se rendre à ses obsèques. La folie des grandeurs est sur le point d'être abandonnée quand Simone Signoret souffle à l'oreille de Gérard Oury le nom d'Yves Montand pour remplacer Bourvil. Et ça marche. Les deux hommes, que tout oppose politiquement, De Funès est un catholique conservateur, Montand un communiste revendiqué, se respectent mutuellement. Alors en bonne intelligence, ils évitent les sujets qui fâchent. Le tournage donne lieu là aussi à des improvisations savoureuses. De Funès puise dans sa passion pour l'avare de Molière pour incarner ce grand d'Espagne. Le film, sans surprise, est un nouveau succès. Et Gérard Oury a déjà une nouvelle idée, les aventures de Rabbi Jacob. On est en 1973. Son ami lui a écrit un personnage odieux, Victor Piver, une saloperie de l'aveu même de De Funès. Mais voilà, le film qui traite du rapport entre juifs et arabes sort en pleine guerre du Kippour. Et il prend tout de suite une dimension politique. Et un drame vient perturber la promo. La femme de l'attaché de presse de Rabbi Jacob, Georges Craven, détourne un avion d'Air France pour demander l'annulation de la sortie du film parce qu'elle trouve qu'il est pro-sioniste. Elle est finalement abattue par les forces d'intervention. Louis vit mal cet événement. Tout ça n'a plus rien à voir avec de la comédie. Malgré tout, Rabbi Jacob sera encore une fois, vous le savez, un immense succès. On est en mars 75, ça fait presque 10 ans que Louis de Funès tutoie les sommets, mais il faut l'avouer, il est épuisé. Il n'a pas pu aller au bout des 200 représentations de la valse des Toréadors de Jean Anouilh qu'il joue au théâtre. Un matin, il ressent une violente douleur dans la poitrine. Le cardiologue a beau être rassurant, Jeanne décide quand même d'appeler les secours. Et elle fait bien. Le comédien de 61 ans vient de faire un infarctus. À l'hôpital, Louis, qui est très croyant, assure à ses enfants que cette crise cardiaque est un don du ciel. C'est l'occasion enfin de prendre du recul, d'arrêter de se faire du souci pour un rien. Quelques jours plus tard, on est le week-end de Pâques, Louis est toujours hospitalisé. Le service est désert. Jeanne, elle, est près de lui. Et elle va sauver la vie de son mari. Soudainement, sur son lit d'hôpital, le visage de Louis se crispe. Son moniteur cardiaque se met à sonner. L'interne de garde est dépassée par la situation. Alors c'est Jeanne qui prend les choses en main. Elle demande à une aide-soignante de faire ouvrir le bureau du médecin et elle parvient à le joindre à la campagne. Par téléphone, il lui dit quoi faire. Louis s'en sort grâce à la réactivité de son épouse. Mais le comédien explosif et virevoltant que la France adore va vraiment devoir lever le pied. On est le 27 janvier 1983. Depuis son double infarctus, 8 ans plus tôt, Louis de Funès s'est tenu un temps loin des plateaux de cinéma et des théâtres parisiens. Il s'est isolé au château de Clermont, auprès des siens, et de son jardin. Tous les matins, il se lève aux aurores et il fait le tour de son domaine. Il regarde les oiseaux picorer ses pommes et ses poires. Il surprend les écureuils bondir d'arbre en arbre. Il contemple ses fleurs, ses magnifiques boutons d'or aux pétales jaunes. Comme chaque matin, quand il remonte au château pour le petit déjeuner, il en dépose une sur le piano de Jeanne. Ce sont ses fleurs préférées. Son épouse joue désormais Bach et Chopin comme personne. Louis se souvient de cet élève rencontré chez Charles Henry, à qui il a donné, souvenez-vous, des cours particuliers, avant de l'inviter un soir à dîner. Il est fier de celle qui est devenue sa femme. Épouser Jeanne a sans doute été la meilleure décision de sa vie. Sans Jeanne, que serait-il devenu ? Aurait-il accepté de remonter sur scène ? Aurait-il eu une telle carrière ? Aurait-il seulement persévéré dans la comédie ? Mais surtout, sans Jeanne, il ne serait pas là, debout, devant cette immense bâtisse qu'est Clermont, ce château de famille où il aura passé plein de moments heureux. Ce château que lui, simple troubadour, aura pu offrir à Jeanne comme par miracle. Au final, ce qu'il aura surtout aimé, Louis, c'est de vivre près d'elle, peu importe où. Devant cette bâtisse, il repense aussi à Carlos, son père, à sa fuite, à sa mère aussi, sa meilleure professeure de comédie, et à Julia, sa petite fille, qu'il aime d'un amour fou et avec qui il vient de passer quelques jours à la neige. Au-dessus de tout, ce qui aura surtout compté, vous l'avez compris, ce sont tous ces instants passés avec ses proches. Même s'il a aussi bien sûr vécu des expériences formidables dans sa carrière, avec André Bourvil, mais aussi avec ses camarades des gendarmes, Michel Galabru, Jean Lefebvre, ou encore avec son ami Jean Carmet, avec qui il vient de tourner La Soupe aux Choux, et qui lui aussi vit pas très loin au milieu de ses vignes. Mais ces dernières années, sa rencontre la plus marquante aura sans doute été celle avec Coluche. Il l'avait vu comme la relève, et il avait tapé juste. Quel phénomène, ce sera un grand, confie-t-il à ses fils. Il faut dire que sur le tournage de L'Aile et la Cuisse, ils se sont incroyablement bien entendus. Coluche arrive du café-théâtre et il voue un véritable culte à De Funès. Jamais avare d'un bon mot. Il dit de lui, Louis de Funès a tellement de talent qu'il en donne aux autres. Les deux hommes s'admirent, alors Louis fera pour Coluche ce que Bourvil avait fait pour lui. Il partagera l'affiche. Le nom de Coluche apparaîtra en gros près du sien. Une sorte de passage de flambeau avant de baisser le rideau. Car en ce 27 janvier 1983, au château de Clermont, Louis de Funès vit ses dernières heures. En début de soirée, le génial comédien ressent une nouvelle douleur dans la poitrine. Il est transporté à l'hôpital de Nantes, où il s'éteint. La France perd l'un de ses plus grands clowns. 50 ans plus tard, elle demeure inconsolable. Bonjour Bertrand Dical.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur RTL. Vous êtes journaliste et auteur et vous êtes l'un des meilleurs spécialistes français de Louis de Funès. Vous l'avez démontré dans ce livre « Grimace et gloire » publié chez Grasset. C'est comme ça qu'on termine le récit, Bertrand Dical. La France se sent toujours orpheline aujourd'hui de Louis de Funès. Elle reste un peu inconsolable.
C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est le fait que génération après génération, on découvre Louis de Funès. Les enfants qui sont nés après sa mort découvrent Louis de Funès dès leur petite enfance. Ils l'aiment, ils applaudissent et un jour on leur dit qu'il est mort. Et c'est quelque chose d'assez curieux parce que de Funès, et c'est aussi pour ça, on va évidemment en parler, mais c'est aussi pour ça qu'on continue à le regarder, de Funès a quelque chose de totalement intemporel. C'est pas un personnage des années 50, des années 60, des années 70. Il a réussi à imposer, sans le vouloir, sans le chercher, quelque chose de totalement intemporel.
On va en reparler en effet, mais on commence avec lui en tant qu'acteur. Comment on explique le revirement de situation à 50 ans, donc très tard hein, pour un acteur? On raconte dans le récit cet été 64 avec trois succès d'affilée, mais est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, son jeu qui a changé, son attitude qui a changé? Pourquoi d'un coup là, à 50 ans, il devient ultra populaire?
Ce qui se passe avec les films de 64, c'est qu'ils révèlent en premier rôle un second rôle génial. Faut pas oublier que le décollage à la verticale de la carrière de Funès avec Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantômas et Le Corneau, ça vient confirmer quelque chose que tous les Français connaissent. Tous les Français ont vu de Funès, et pas dans un film, dans 10, dans 20, dans 30 films. Il a tourné plus d'une centaine de films avant cet été 64. Il a été que deux ou trois fois à premier rôle jusqu'à présent. Mais il est toujours ce personnage qui apparaît 20 secondes, 1 minute, 3 minutes, un quart d'heure, qui est le faire-valoir, qui est pas le héros, qui est juste un personnage qui passe, mais que tout le monde remarque et que tout le monde a l'habitude de regarder. Et quand la caméra se braque sur lui, ben, tous les Français et tout le métier du cinéma et la presse et les journalistes et tout le monde se dit « Mais oui, bon sang, mais c'est complètement incroyable l'abattage de cet acteur. » Et De Funès aurait eu sa chance très tôt dans sa carrière, beaucoup plus tôt, 10 ans, 15 ans plus tôt, il serait certainement pas devenu une telle star. Parce que ce que fait De Funès quand il a un premier rôle, il fait exactement la même chose que quand il a un second rôle, il multiplie les secondes. C'est-à-dire que dans une seconde de Louis De Funès, vous avez une grimace du visage, vous avez une mimique des bras, vous avez un geste des jambes, vous avez une position dans le cadre qu'il maîtrise totalement, parce qu'il a une connaissance incroyable de la technique du cinéma, et en plus il a une façon de parler, une façon de s'exprimer par les mots, par la voix, qui est extrêmement particulière. Donc vous avez un personnage avec un rendement complètement dingue. Quand c'est sur la longueur d'un film qui a un peu les moyens, parce que c'est le cas du Gendarme de Saint-Tropez, c'est surtout le cas de Fantomas, et c'est évidemment le cas dans Le Corneau, quand il y a les moyens, quand le film travaille pour lui, à ce moment-là, on se rend compte que c'est un génie.
Travailleur et opiniâtre, ça le définit bien, ça, Louis de Funès ?
Opiniâtre et travailleur, travailleur et opiniâtre, ah oui, 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 il y a ça. Plus quelque chose qui est, c'est pas sa part sombre, mais qui est une part importante de la vie de Louis de Funès, c'est l'angoisse. C'est la peur de manquer. Quand il est au sommet de la gloire, il en parle. Il parle des nuits grises, comme il les appelle. Il parle de ces moments où, en travaillant, quand il était pianiste de bar, quand il était jeune acteur et qu'il faisait quelques petits rôles de ci, de là et des figurations, effectivement, il a eu du mal à manger, il a eu du mal à nourrir sa famille. Et donc, en permanence, il a ça. Et ça, ça explique aussi une partie de la carrière de De Funès quand il devient glorieux, même dans les années 60. Il n'arrête pas de tourner comme un fou, parce qu'il se dit, et en permanence il se dit, ça va s'arrêter. C'est un rêve, c'est un moment. Les gens ne vont plus m'aimer, on ne va plus me proposer de films. Donc il va faire tous les films qu'on lui propose. Il va travailler d'une manière complètement boulimique. Il y a une année dans sa carrière, 1954 si je me souviens bien, il tourne 18 films. 18 films. Alors il est premier rôle nulle part. Mais il est toujours entre 3, 4 et 20, 25 minutes à l'écran. Donc c'est un second rôle extrêmement présent qui bosse comme un dingue, qui enchaîne tournage sur tournage et qui parfois tourne deux films en même temps.
Je ne sais pas si aujourd'hui un acteur fait ça encore, tourner 18 films dans une année. Depuis cette fameuse année-là dont vous parlez avec Louis de Funès, je ne suis pas sûre que ce soit arrivé avec un autre acteur.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une conception de la carrière qui est plus du tout la même. D'abord, faut pas oublier que De Funès a une particularité dans sa carrière. Ça va faire frémir une profession du cinéma d'aujourd'hui. De Funès n'avait pas d'agent. De Funès a eu de temps en temps un agent pendant un an ou deux, et puis il les a virés. Il préférait tout traiter lui-même, ou que ce soit Jeanne, sa femme, qui s'en occupe, ou que ce soit un avocat qui payait au contrat. Mais il n'avait pas d'agent, donc il n'avait pas quelqu'un pour lui dire « Non, non, tu ne devrais pas faire ça, c'est pas bon pour ta carrière. » Donc De Funès enchaînait le cinéma de qualité, des rôles dans des films commerciaux parfois épouvantables, il faut bien le reconnaître. Il a tourné dans des navets de haute futaie, certains des plus grands navets de l'histoire du navet ont la chance d'avoir De Funès dans leur distribution, parce qu'il pouvait à lui tout seul sauver un film, même en second rôle. Il y a quelque chose chez De Funès qui est totalement anti-professionnel. C'est-à-dire qu'il bosse comme on ne devrait pas travailler. On ne devrait pas travailler comme ça, même à son époque. Même des gens qui sont des stacanovistes, les Darry Cole, les Jean Richard, les Francis Blanche, ne tournent pas autant que lui. Même les grands seconds rôles, les Carrette par exemple, ne tournent pas autant que lui. Lui, il bosse, il a cette angoisse terrifiante de manquer.
Je le disais en introduction de ce confidentiel, pas un Noël sans Louis de Funès. C'est le rendez-vous des familles. Les films de De Funès font partie des films les plus rediffusés à la télévision et ils font toujours des scores aussi élevés. Comme j'aime beaucoup les chiffres d'audience et les médias, je me suis un peu amusée à aller chercher quelques infos. La Grande Vadrouille, qui date donc de 66, a été diffusée, c'est vertigineux, écoutez bien, 24 fois à la télévision. 24 fois. Il fait partie des films les plus rediffusés sur les grandes chaînes. Et d'ailleurs, c'est toujours diffusé sur une grande chaîne, hein. C'est pas sur les chaînes juste de la TNT, c'est toujours sur les grandes chaînes nationales. En 2020, pendant le Covid, en plein après-midi, devant La Grande Vadrouille, il y avait plus de 5 millions de personnes devant la télévision. Encore une fois, je le redis, film qui date de 66. Je le rappelle, et info importante, le film fait toujours autant d'audience et, quand on regarde de plus près ses chiffres d'audience, il fait une très bonne audience sur les moins de 25 ans. Ça vous fait sourire, ça, Bertrand Dical ?
Ben, il y a une espèce d'évidence. Et je veux pas être, hyperbolique, mais on est nombreux, et aujourd'hui encore, quand je dis « on », je parle des Français, des Européens, on est nombreux à prendre le cinéma avec De Funès. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez De Funès, c'est qu'on voit les fils. On voit comment c'est fait. On voit très bien comment c'est fait. D'abord parce qu'il a un langage corporel, un langage de jeu, un langage du visage, un langage expressif, une palette de tons et d'expressions de la voix qui est en fait assez limitée, assez stéréotypée, même si c'est lui qui invente les stéréotypes en question. Et surtout, De Funès joue à peu près toujours le même rôle. Il joue Polichinelle, ce personnage de la Commedia dell'arte, qui est le méchant qu'on va prendre en pitié. C'est le méchant sympathique, le salaud qu'on aime bien. Il joue ce rôle-là, en permanence. Donc, en permanence, il joue sur la même corde. Et nous, on le voit. Et on voit, par exemple, il y a un plan du film Joe, que j'aime passionnément, où on voit De Funès qui court, il faut qu'il aille ouvrir la porte... Mais il ne veut pas ouvrir la porte parce que derrière la porte, il y a le commissaire de police qui est joué par Blier. Il sait que les emmerdements commencent, mais il faut surtout pas que ce soit quelqu'un d'autre qui ouvre la porte. Donc il se précipite pour ouvrir la porte et en même temps, il veut pas ouvrir la porte. Et on a 4 ans, on a 5 ans, on voit ça, on comprend. On comprend le corps de De Funès qui est en train d'accélérer, ralentir, se tordre, arriver en marche arrière, marche avant, tirer la porte et la repousser en même temps, faire quelque chose qu'il est difficile même de concevoir et d'essayer de faire soi-même avec son corps, aucun acteur peut le faire. Il n'y a que lui qui sait le faire. Et ça, c'est ce qui explique que on a des chocs devant De Funès quand on a 4 ans, quand on a 5 ans. Puis, quand on est adolescent, ben, on découvre d'autres choses. Quand on est adulte, on comprend des allusions qui sont dans le texte. On cherche un peu l'émotion, parce qu'il y a quand même de l'émotion dans ce que joue De Funès. Et en fait, à tous les âges, on a un De Funès pour chaque âge. Et d'ailleurs, si vous avez le temps, prenez certains films en DVD et regardez. En fait, le temps chez De Funès est dilaté. C'est-à-dire qu'au montage, les grands monteurs, Jurgenson par exemple, qui est le monteur de La Grande Vadrouille, il sait très bien que quand il montre De Funès, ce qu'il montre de De Funès est plus long que le temps de l'action. C'est-à-dire que De Funès ouvre une porte, au cinéma, il met plus de temps à ouvrir la porte qu'il l'ouvre en vrai. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on montre ? On montre De Funès qui court, et puis on le montre en plan américain parce qu'il fait un truc bizarre avec les bras, et puis on montre son visage qui fait une grimace, et puis il faut quand même qu'on entende ce qu'il est en train de dire. Et donc, en fait, ça prend plus de temps qu'un type qui ouvre une porte. Mais c'est tellement indispensable de tout voir à la fois, de voir son visage, son corps, son torse, ses jambes, sa position dans l'espace, la manière dont il fonce d'une façon comique qui est... il a les jambes les plus comiques du cinéma français. Je sais pas, il y a guère que Pierre Richard qui peut arriver à faire quelque chose de semblable. Mais voilà. Il y a une telle richesse, une telle générosité, une telle prodigalité dans le comique de Funès que même effectivement, si on est de très très mauvais poil et un petit peu malade dans son lit, on est quand même très heureux de voir un film de Funès.
On en parle beaucoup dans le récit. Revenons sur la vie plus intime de Funès. Puis vous en parliez tout à l'heure, Jeanne, hein, la femme de sa vie. Parlons des femmes de sa vie. Commençons par Jeanne. Jeanne, c'était la terreur des plateaux. Quel rôle elle a eu vraiment, Jeanne, dans sa vie ? Est-ce qu'elle a été absolument essentielle pour la carrière de Funès, pour que la carrière de Funès devienne ce qu'elle a été ?
Jeanne a le mauvais rôle. Et c'est même souvent Jeanne qui fait le sale boulot. C'est-à-dire que quand Funès dit oui, il dit oui. Quand il dit non, c'est Jeanne. C'est Jeanne qui dit non. C'est Jeanne qui répond au téléphone et qui dit au réalisateur ou au producteur « Non, il n'a pas encore lu le scénario. » Et qui dit « Ah oui, mais là, c'est difficile parce qu'il part sur un tournage. » Et à ce moment-là, le producteur réalise que le film se fera pas. C'est elle qui a ce boulot-là. C'est elle, alors, qui a ce moment terrible, fondateur, pendant le tournage du Cornio, pendant lequel, on sent bien qu'elle l'épaule, elle l'accompagne dans sa colère contre Gérard Houry. Quand il tourne Le Tatoué, qui est un tournage qui se passe, qui est très très difficile avec Jean Gabin, c'est elle qui de temps en temps fait des remarques à voix haute pendant les projections des rushs, avec une voix faussement ingénue et faussement naïve, mais parce qu'elle sait très bien qu'à côté d'elle, Louis de Funès est en train de bouillir. Donc, elle fait le sale boulot, comme souvent les femmes d'artistes, il faut quand même le reconnaître.
Elle le connaissait mieux que personne.
Elle le connaît extraordinairement parce qu'ils ont traversé les années de nuit grise et parce qu'il faut pas oublier que De Funès est quelqu'un de très solitaire. De Funès, au château de Clermont, c'est cette demeure extraordinaire, très très peu de gens de cinéma, sauf pour préparer des films, discuter de contrats, discuter de scénarios, discuter de projets, mais les gens de cinéma n'y vont pas. De Funès reçoit de la famille, des cousins, reçoit des gens de la région, reçoit des vieux copains, mais des gens de cinéma, il y a guère que Michel Galabru. Et De Funès, par exemple, est un vrai ami de Bourvil. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ni De Funès ne va chez Bourvil, ni Bourvil ne va chez De Funès. Donc c'est un homme qui vit très à l'écart du cinéma. Et il a quand même besoin, comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, il a besoin de parler de boulot avec quelqu'un, il a besoin de parler boutique. Et Jeanne l'épaule, Jeanne l'aime, et Jeanne va dans son sens. Elle le rassure, parce qu'elle sait, et elle sait mieux que personne, quel est le niveau d'angoisse de Louis de Funès.
On dit que Jeanne était très jalouse des autres femmes avec lesquelles Louis de Funès tournait. C'est vrai, Bertrand Dical ?
Il y a une chose qui est sûre, c'est que De Funès embrasse très très peu à l'écran. Et il embrasse une actrice dans Dortoir des Grandes, il me semble. Il embrasse très très peu à l'écran.
Ça veut dire que vous sous-entendez que ça viendrait de Jeanne ?
De Funès est un homme extraordinairement pudique, comme Lino Ventura. Et comme Lino Ventura, il a un peu le même discours. Il dit « je ne peux pas ». Prétendre aimer ma femme et embrasser une autre femme.
Mais c'est du cinéma.
C'est du cinéma, mais il dit les enfants comprendraient pas. Et puis de toute façon, il aime pas ça. Il sait pas le faire. Et c'est d'ailleurs ça qui est vachement. C'est une des choses les plus étonnantes chez De Funès, c'est que De Funès est un acteur extraordinairement limité. On rigole de temps en temps et avec beaucoup de sexisme sur les actrices qui ne veulent pas jouer nues, mais De Funès, il y a énormément de choses qui ne jouent pas, qui ne tournent pas. Il refuse de tuer quelqu'un, par exemple. Il refuse d'être un gangster qui tue. Il refuse des scénarios et il les refuse parfois avec outré. Qu'on lui proposait des choses comme ça, il refuse de tuer, il refuse d'être un gangster, il refuse de voler, il refuse... Il veut bien être un salaud, mais un salaud honnête. Et en fait, c'est très intéressant, d'ailleurs, de se dire, tiens, on va jouer le salaud, mais pas à la Al Pacino. Non, non, on va jouer le salaud honnête. On va jouer l'homme respectable, tout à fait moral, tout à fait bourgeois, tout à fait bien élevé, tout à fait courtois, mais ça sera un pur salaud. Il sera raciste, il sera antisémite, il voudra pas payer les impôts, il sera méchant avec ses employés, il sera méchant avec tout le monde, il sera un tyran domestique, il embêtera les enfants, il détestera que les adolescents aient des histoires d'amour. Un vrai salaud, mais un salaud moral.
Le début de son histoire avec Jeanne était quand même assez étonnant, hein, faut le dire. Est-ce que c'était un séducteur, Louis de Funès ? Je rappelle que quand il séduit Jeanne, on le raconte dans le récit, hein, qu'il rencontre sa famille, qu'on commence à parler mariage, en fait, on apprend que Louis de Funès est déjà marié à une autre femme et qu'ils ont un enfant ensemble. Bon, faut dire qu'il y a plus simple et plus honnête comme début d'histoire, non, Bertrand Dical ?
Quand on regarde le De Funès adulte, j'allais dire le De Funès de l'âge mûr, 50-60 ans, on a un personnage qui est vraiment presque rectiligne, presque monolithique. Et De Funès y tient d'ailleurs, il tient à cette image de l'homme. Alors, il ne fait pas de publicité pour l'Église catholique, mais tout le monde sait qu'il est fervent catholique. Tout le monde sait qu'il est croyant et qu'il va à la messe. Mais c'est pas ça l'enjeu. C'est-à-dire que De Funès, il faut voir d'où il vient. Il vient d'un milieu, d'un monde, d'une famille totalement fracassée. Faut pas oublier que son père a enlevé sa mère, qu'ils ont fui en France, ils ont fui l'Espagne, que son père a réussi à ruiner sa mère et à lui faire disparaître toute sa dot et tout l'argent que lui donnaient ses parents, qui étaient quand même très riches. Son père a fini par simuler un suicide pour fuir au Venezuela, notamment avec d'autres femmes, pour essayer d'y trouver la fortune. Il n'a pas trouvé la fortune, il a trouvé la tuberculose. Il est revenu en Europe uniquement pour mourir. Sa mère, qui était un personnage complètement dingue, complètement extravagant, un peu hystérique, un peu avec des colères phénoménales, qui sont le modèle des colères de Louis de Funès quand il sera au cinéma. Il vient d'un monde fracassé. Il n'a jamais fait un vrai métier. Les métiers qu'il a fait, c'était il installait des vitrines, il a fait des tout petits boulots de cinéma, ça n'a pas duré, et puis il s'est retrouvé pianiste de bar. Ça s'appelle pas la bourgeoisie, ça s'appelle une vie de marginal, à une époque où les marginaux n'ont ni le RSA ni le SMIC. Donc la question de la survie alimentaire quotidienne est un souci permanent. Donc effectivement, il s'est marié une première fois, ça a pas très bien marché, ça a même assez mal marché. Et quand il rencontre Jeanne, il est séparé de sa femme. On est en plus pendant la guerre, on est dans un moment où toute la société française est un peu quand même en train de s'effondrer. Et là, il rencontre Jeanne et il rencontre une femme dans laquelle il voit un pilier, il voit une charpente. Elle aussi, elle est d'une famille fracassée, c'est des nobles déclassés, c'est une famille assez étrange elle aussi. Et ces deux marginaux, ces deux déclassés, ensemble, se tenant l'un à l'autre, ils comprennent très vite qu'ils peuvent fonder une famille, qu'ils peuvent fonder quelque chose de solide. Et ça, c'est quand même, pour vous, pour moi, pour tout le monde, c'est quand même une rencontre importante. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un et qu'on dit « Tiens, avec elle, j'ai fondé une famille, ça va marcher, j'ai confiance, on peut y aller », c'est quand même le grand moment amoureux de sa vie.
Vous parliez de sa mère, justement. Quelle relation il avait avec sa mère? Elle a notamment été le modèle de ses colères à l'écran. Quelle relation ils avaient, Louis de Funès et sa mère? Il a été en pension, je le rappelle. Elle ne pouvait plus s'occuper de lui une fois que le papa était parti. Donc en effet, moment d'enfance assez compliqué. Quelle a été la relation? Il l'aimait quand même? Elle a été un exemple, un moteur pour lui?
Je pense que Louis de Funès est comme tout le monde. Il aime et il déteste sa mère autant. Mais chez lui, c'est certainement plus paroxystique. Il a à la fois, quand il est enfant, extrêmement peur de sa mère, et en même temps, il a énormément de pitié pour sa mère. Et la pitié d'un enfant pour sa mère, c'est pas quelque chose qui est fondateur qui promet un grand équilibre plus tard. C'est-à-dire qu'il voit bien que sa mère fait des petites manœuvres minables pour un peu arnaquer les voisines, pour voler un peu chez les commerçants. Et en même temps, sa mère est un personnage totalement extravagant qui estime qu'il doit savoir jouer du piano parce que dans une grande famille, parce que comme ils sont d'une grande famille, il doit savoir jouer du piano. Il y a cette espèce de délire de grande bourgeoise déclassée de sa mère qui est certainement une femme brisée, qui est certainement une femme qui est tombée amoureuse d'un homme magnifique qui parlait bien et qui avait de jolies moustaches et qui a ruiné sa vie avec cet homme. Donc il y a une connivence avec sa mère, une connivence d'enfant qui voit souffrir sa mère et qui souffre des mêmes choses que sa mère, mais qui en même temps déteste sa mère, a honte de sa mère, ne supporte pas que sa mère fasse ses grands numéros chez les commerçants, que Sa mère est très heureuse qu'il quitte la maison, qu'il aille vivre de son côté, qu'il gagne sa vie parce que ça lui fait un souci de moins. Donc il y a une espèce d'amour-haine, une solidarité, en même temps un ressentiment. Et puis il y a le personnage extravagant qu'est sa mère, et dont de Funès et les témoins, moi, je me souviens en avoir parlé avec Lautner, qui avait connu la mère de Funès et qui disait effectivement quand on voit de Funès à l'écran qui s'énerve, qui crie, qui bondit, qui trépigne, qui soudain s'arrête et attrape un objet, et soudain, par exemple, la colère dans le petit baigneur, quand il est complètement fou avec Robert Derry, et qu'il commence à jeter des choses, et puis soudain qu'il réalise que le tube, ça fait un petit pop, et que c'est rigolo. Et que soudain, la colère disparaît totalement, il est en train de s'amuser avec les tubes, et puis il repart dans sa colère. Et ben, c'est exactement la merde de Funès. Et ça, c'est une puissance comique extraordinaire. Mais imaginez vivre avec quelqu'un. Imaginez vivre avec quelqu'un qui est comme ça. Et tous les grands comiques sont des grands désespérés et se nourrissent de quelque chose qui les a brisés. C'est Charlie Chaplin avec sa mère qui a fini en hôpital psychiatrique. C'est ça. C'est Raymond Devos qui raconte qu'une grande partie de son comique vient du fait qu'il a envoyé en camp de travail en Allemagne et que de cette expérience-là, il fait des sketchs. On n'en voit pas une trace dans ses sketchs, mais pourtant, c'est là. Mmh. Et c'est visible partout. Donc, les traumatismes d'enfance de Louis de Funès, ben heureusement, ça nous fait marrer.
Ça nous fait rire, ça nous fait sourire quand vous racontez les scènes. On a encore l'impression d'y être, on a l'impression de les voir. L'autre femme de sa vie, ça a été Masha Béranger. Il a été beaucoup dit qu'ils ont été très proches, tous les deux, que Louis de Funès a été très proche d'elle. C'est quoi, vraiment, la nature de leur relation ?
Bon, alors maintenant, il y a prescription, et puis tout le monde le sait. Et puis, il n'y a pas de raison de le cacher. Masha a été sa maîtresse dans un moment où Louis de Funès est à la fois une star absolue et un homme qui est en proie au doute, qui est angoissé depuis des années, qui est au sommet et férocement contesté. Et n'oublions pas que Masha est journaliste. C'est un personnage des médias. Et tous les témoins le racontent, tous les témoins de Funès. J'avais posé la question à des acteurs, à des réalisateurs, à des producteurs. Christian Fechner racontait qu'il le faisait lui-même. Quand de Funès, comme tous les Français de l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les téléphones portables qui nous donnent les informations. Donc, comme beaucoup de gens à l'époque, il achète 3-4 quotidiens tous les matins. Et quand Fechner va le chercher en voiture pour aller sur le tournage de L'Aile ou la Cuisse, il prend lui-même les journaux et il fait ce que De Funès fait systématiquement quand il ouvre un journal. Il prend le journal, il l'ouvre par la fin, il enlève la page des spectacles sans la regarder, il la chiffonne, il la met par terre. Et Fechner fait ça systématiquement. Parce que De Funès se fait tellement injurier à propos de tout et n'importe quoi dans la presse qu'à chaque fois, il le ressent comme un coup de poignard effroyable. C'est-à-dire qu'un journaliste qui est en train de parler de théâtre, qui est en train de parler de musique classique, qui est en train de parler de télévision, va souvent éprouver le besoin de dire « Cette pièce, ce n'est pas comme les âneries de Louis de Funès. Ce film, les gens feraient mieux d'aller voir ce film plutôt que voir les âneries de Louis de Funès. » Et donc, il est dans une situation où il sait que le public l'aime passionnément et en même temps, une partie du métier le déteste et une partie de la presse le déteste. Et il ne voit que les gens qu'il déteste. Et donc, il y a une femme de médias qui est extraordinaire, une femme de radio extraordinaire. Faudrait se souvenir de ce qu'elle est. Les auditeurs ne le savent pas aujourd'hui, ce qui était Masha pour France Inter. C'était vraiment la confidente de la France. Elle avait un ton qui est une façon de parler extrêmement particulière, extrêmement singulière. Et donc, ils ont des interviews qui se passent magnifiquement bien. Et puis il arrive ce qu'il arrive entre une femme de radio et un homme très séduisant qui est dans le studio. Ça arrive, ce genre de choses. Et simplement, lui, il est théoriquement fidèle à sa femme, mais il en est au bout de quelques décennies de mariage. Elle est un personnage fantasque qui, pour une fois, arrive à être plutôt discrète tout le temps que dure leur histoire. Donc, c'est au fond une très très belle histoire. Et très sincèrement, j'adore l'idée que De Funès devienne star à 50 ans et qu'il devienne un amant et se dévergonde à 60 ans.
Bon, moi j'adore pas l'idée, hein, je dois dire, mais chacun sa vision, je respecte. Autre histoire étonnante, c'est celle avec son premier fils, Daniel. Le divorce avec sa première femme, Germaine, se passe bien, mais à condition qu'elle garde leur enfant. Voilà, c'est la condition que pose Germaine. Comment finalement Louis de Funès a-t-il vécu ? Est-ce que je peux parler d'abandon ? Est-ce qu'on peut appeler ça un abandon de son fils, Bertrand Dical ?
Il faut pas oublier ce que sont les normes de l'époque. C'est-à-dire que dans un divorce, il y a même pas mal de romans de l'époque qui sont écrits autour de cette thématique. Dans un divorce, une femme peut être épouvantable, une mère peut être une mère épouvantable, peut être une mère criminelle même, et avoir des conduites extrêmement toxiques, extrêmement dangereuses pour les enfants. Les juges et la société attribuent toujours la garde des enfants aux mères. Et c'est souvent même une tragédie absolue pour les enfants. Et c'est souvent aussi, on est dans un monde dans lequel la famille recomposée n'existe pas beaucoup. C'est-à-dire que une épouse est une épouse, elle a des enfants. Pourquoi son mari irait encore s'embarrasser à voir une autre femme qui est son ancienne femme. Donc, il y a quand même... Alors aujourd'hui, la conduite de Louis de Funès, à cette époque-là, serait inimaginable dans nos conceptions contemporaines. Mais comme Germaine, elle-même, a un autre homme dans sa vie, de Funès se dit, bon ben... C'est très bien. Il va être élevé par un homme qui a l'air plutôt d'être un homme carré avec la tête sur les épaules. Il est avec sa mère. Et De Funès n'imagine pas qu'il va devenir l'acteur le plus célèbre et le plus puissant d'Europe et qu'il va gagner des fortunes. Donc, à ce moment-là, la question ne se pose pas. Mais dans les conceptions de l'époque, c'est un arrangement normal et banal. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la presse n'en parle quasiment pas, enfin, à ma connaissance, n'en parle même jamais du vivant de Louis de Funès. Ou quasiment pas. C'est-à-dire que c'est tellement dans les conceptions familiales de l'époque que, à aucun moment, ni de Funès, ni sa femme, ni même son premier fils, sans doute, hélas, ne pensent qu'il y a quelque chose qui, dans notre regard d'aujourd'hui, est peut-être potentiellement très toxique.
Quel rapport ils ont eu ensuite quand Louis de Funès est devenu une star ? Quel rapport il avait avec Daniel ? On raconte qu'il a vu une fois Daniel lorsqu'il est venu le voir en représentation au théâtre, mais on dit aussi qu'il se voyait en cachette. Quelle est la vérité ?
Alors, on ne sait pas trop. Daniel lui-même a pas souvent voulu parler de cette histoire, mais il semble bien qu'ils aient eu des relations plus ou moins suivies, ne serait-ce que pour une raison toute simple, et qu'il faut pas oublier, c'est que De Funès a peut-être énormément de défauts, mais c'est un bon gars. Et à partir du moment où vous gagnez des millions et des millions et des millions et des millions, que par ailleurs vous êtes chrétien, il n'imagine pas qu'il pourrait laisser ce premier fils en dehors, sinon d'une grande prospérité. Donc, effectivement, il semble qu'il lui ait donné des coups de main, il semble qu'il se soit souvent vu, et vraisemblablement en cachette de Jeanne.
Et je rappelle que Daniel est décédé en 2017. L'histoire de Louis de Funès, comme pour beaucoup, c'est aussi une histoire de succession de belles rencontres. Et alors, il y a eu cette rencontre avec Coluche. Comment se sont-ils rencontrés ? Comment leur relation a-t-elle évolué ? Et surtout, est-ce qu'on peut parler de coup de cœur entre ces deux-là ?
Ce qui se passe avec Coluche, c'est d'abord singulier dans la vie de Funès, et c'est à peu près unique dans la vie de Coluche. Il faut bien dire que Louis de Funès est certainement le seul des aînés de Coluche que Coluche ait vraiment respecté. Et c'est un indice quand même, hein. C'est quand même dire à quel point pour cette génération de jeunes gens qui sont nés entre la fin des années 40 et le début des années 50, à quel point de Funès est vraiment un personnage important. Donc en gros, il y avait ce film, L'aile ou la cuisse, qui devait être tourné avec Pierre Richard, et vraiment, quand il est trop tard pour décommander le film, et même pour retarder le film, pour retarder les studios, pour retarder le reste du casting, Pierre Richard jette l'éponge. Et donc, il y a un moment, un petit moment de panique chez le producteur, Christian Fechner. Il y a un moment de panique aussi, même chez De Funès, un petit moment d'abattement. Il faut pas oublier qu'il relève d'un infarctus, qu'il a une longue convalescence, qu'il y a en plus un problème terrifiant avec les assurances qui refusent de le laisser tourner. Donc vraiment, il est en train de vivre de fortes angoisses. Il connaît Coluche pour la radio, pour des sketchs à la radio. Il l'a un peu vu à la télé, c'est pas son truc, c'est pas son genre. Il sait pas que Coluche est comédien, par exemple, que Coluche a fait du café-théâtre avec le Café de la Gare. Il a pas vu le premier film de Coluche. Donc, déjà, quand on lui propose Coluche, et son fils adolescent rentre dans la salle à manger, et Coluche, qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais, ça serait super ! Ça serait super ! Et donc, De Funès, qui a confiance en sa famille d'une part, et qui a confiance en une certaine voix de la jeunesse, se dit, tiens, c'est peut-être intéressant. Et ce qui est singulier dans leur entente, c'est que c'est peut-être le seul film où Coluche est discipliné. C'est peut-être le seul film de Coluche, à part Ciao Pantin, évidemment, qui est une exception, mais c'est peut-être le seul film à vocation comique dans lequel Coluche est là pour faire rire, il faut bien l'admettre. D'abord, il accepte le second rôle, et en plus, il accepte de faire ce qu'on lui dit de faire. Il fait ce qu'il lui est dit sur le plateau. Et ça, c'est aussi des moments forts. Alors, ils ont évidemment au début les deux trois petits accrochages standards, j'allais dire. C'est vrai que sur les plateaux, il y a régulièrement entre les premiers rôles des petits accrochages. On se jauge, c'est un peu masculiniste comme façon de travailler, mais il y a.
Ça arrive sûrement chez les femmes aussi, hein, sur les plateaux entre deux femmes.
J'ai jamais été femme, je peux pas en juger.
C'est moi qui vous le dis.
Il y a des tout petits incidents, des petits mots, des petites attitudes, des petits... Voilà, ils ont une ou deux micro-prises de bec. Et ensuite, tout est idyllique. Et c'est certainement...
Idyllique ? C'est un mot fort, idyllique.
Et oui, c'est un mot fort, parce que De Funès trouve là un partenaire qui a son rythme. C'est-à-dire que le grand problème de Funès sur les tournages, c'est son rythme de tournage. Il lui faut 10, 20 prises. Hein. Il faut, s'il doit dire bonjour mon adjudant dans un plan, en tournant un gendarme, ce qui est certainement la phrase qu'il dit le plus souvent dans les gendarmes, au bout à bout, on doit l'avoir une dizaine de fois par film, bonjour mon adjudant, mes respects mon adjudant, bon ça il le dit souvent, mais à chaque fois il lui faut 10 prises. Parce que rien que ça, voilà, il faut qu'il ait une intention. Donc, quand il y a une scène un peu complexe, avec des mouvements, avec du dialogue, avec tout ça, c'est jamais très très simple pour lui, De Funès. Et en fait, Coluche s'adapte très 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 bien à ça. Ne fait pas de caprices. Alors, il peut être odieux avec Zidi, hein, le réalisateur. Il peut être odieux avec le reste de l'équipe. Il s'en prive pas d'ailleurs. Mais avec De Funès, il y a une espèce de déférence, et les biographes de Coluche disent ça lui arrive pas souvent.
Donc, rencontre à part aussi pour Coluche, pas que pour De Funès, c'est ce que j'en comprends. Dans la jeune génération d'acteurs, Bertrand Dical, personne ne se revendique de Funès. Pourquoi ?
Ben vous savez, quand vous êtes musicien, c'est assez difficile d'aller voir un producteur ou de répondre à une interview sur un plateau télé en disant « Ouais, non, vous savez, moi je me sens un peu comme un Mozart aujourd'hui. » C'est assez difficile. Et ce qu'il y a, c'est que De Funès a donné des choses à tout le monde. Et c'est-à-dire que vraiment, mais vraiment, C'est-à-dire que pas des mimiques, pas des gestes, mais De Funès a enseigné à tout le cinéma français et européen une certaine qualité de rendement. Et c'est pour ça, vous allez comparer à la maison avec les films des autres grands comiques de la génération de Funès. Francis Blanche, Darry Cole, Jean Richard. C'est incroyable, comme quand on regarde ces films, même des grands classiques toujours respectés, Le Triporteur, avec Darry Cole. Ce qui est étonnant, c'est la lenteur du comique. C'est la lenteur avec laquelle ça va. De Funès, il impose un tempo qui ne changera plus. Ça ne changera plus. Et c'est d'ailleurs, je parlais un instant de Mozart, mais il y a ça. Il y a un moment, Mozart change quelque chose dans la musique européenne, le fameux trop de notes Mozart. Ben oui, à partir de là, ben on en met partout. On se dit, oui, même pour décrire un sentiment très mélancolique, très triste, très lent, ben on peut mettre plein de notes, on peut écrire en demi-croche, en double croche. Et ben, De Funès, c'est la même chose. Il impose cette idée que quand on fait un mouvement, tout le corps, la voix, le visage, tout est en mouvement en même temps, avec une synchronisation complètement dingue. Et ça, c'est quelque chose que tous les comiques, tous, sans exception, ont pratiqué ensuite.
Et nous, ni comédiens, ni acteurs, est-ce qu'on n'a pas tous un peu de Louis de Funès en nous?
Ah ben, il y a une chose pour laquelle on est tous de Funès, c'est qu'on est assez volontiers des salauds contents d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on marche sur le pied d'un enfant, bon, c'est mal, c'est pas bien. Mais quand on voit tomber de l'argent du porte-monnaie d'une petite vieille, qu'on le ramasse et qu'on le donne à personne, ça arrive à tout le monde. Et ça, c'est le personnage de De Funès. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin des films de De Funès. Parce que De Funès, dans Rabbi Jacob, il dit « Salomon, vous êtes juif ?» Il est en train de dire à tout le monde à quel point l'antisémitisme, le racisme, ça peut arriver à n'importe qui. Et ça peut arriver à n'importe qui a de l'argent, qui est bien dans sa vie, qui va marier sa fille. Tout va bien, tout va bien. Et soudain, on découvre que cet homme-là est un pur salaud. Et c'est précisément parce que c'est un pur salaud que tout va se dérégler autour de lui, que ça va être un désordre complètement dingue, qu'il va être obligé de se déguiser en rabbin, qu'il va être obligé de jouer aux juifs pendant tout un film. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. Et ça, c'est une phénoménale leçon. Parce que De Funès nous explique que nous pouvons partir de « Salomon, vous êtes juif », qui est quand même une phrase immonde et qui est quand même inspirée d'une phrase de la vraie vie, qui était « Mais Houri, vous êtes juif ?» et qui part d'un dialogue de Gérard Houri avec un professionnel du cinéma, qui le regarde avec un air écœuré en lui disant « Mais vous êtes juif ?» Et Houri en fait un film comique, et c'est un film qui à nous sert, et qui nous sert quand nous élevons nos enfants, quand nous nous regardons dans le miroir, quand nous pensons en tant que société. C'est pas un hasard d'ailleurs si des télévisions l'ont rediffusé récemment. Et c'est en ça que De Funès nous est important. Et c'est pas uniquement parce que le scénario de Houri et Thompson est fait comme ça, il raconte ceci. Non, non. Sans De Funès, ce film n'aurait pas existé. Il n'aurait pas pu être tourné. Il n'aurait pas cette puissance-là. Parce que De Funès ne peut montrer, il est le seul à réussir à nous montrer des salauds à ce point-là, des gens qui sont vraiment infects, qui sont des personnages franchement répugnants et qu'on aime tout le temps. Regardez Les Grandes Vacances. Regardez Le Grand Restaurant. C'est un homme dictatorial, immonde, infâme avec tout le monde, avare, méchant, misogyne, mesquin. Il a les pires défauts de la Terre et on l'aime. Et c'est ça, c'est cet archétype qu'on n'avait plus vu dans la culture européenne depuis la Commedia dell'arte, depuis le personnage de Polichinelle. Et ensuite, ça sera difficile de le recréer, ce personnage, parce que maintenant, c'est De Funès. Et d'ailleurs, ce qui est assez singulier, et ce que disent souvent les Italiens, les profs d'italien qui emmènent leur classe de lycée, voire de la Commedia dell'arte, et les profs d'italien et de littérature qui ont des élèves, qui leur disent, mais ce personnage, il rappelle De Funès. Et mais oui, Polichinelle, aujourd'hui, le Polichinelle qui existe depuis la Renaissance, eh ben, il nous rappelle De Funès. Et c'est cet archétype-là, c'est cette portion d'humanité qui nous apporte et qui nous montre et qui nous enseigne.
On finit avec le conseil de Bertrand Dical pour Noël, vous qui les connaissez si bien, il y en a tellement. Si on devait choisir trois films à regarder pour ce Noël 2023, ce seraient lesquels ?
Alors, moi j'en ai un que je recommande. Alors, c'est un film qui est tombé dans le domaine public, donc on peut le voir sur Internet. C'est un film qui s'appelle Courte Tête. C'est un film de Maurice Regamet et qui est un film qui est un peu sur le même scénario que Le Gentleman d'Epsom. Le premier rôle n'est pas De Funès, mais c'est certainement les 25 premières minutes de film, de film comique, les plus éblouissantes des années 50. Vraiment, voyez ce film, Courte Tête. Quand vous arrivez au cabaret, je vous spoil, quand vous arrivez au cabaret, vous pouvez arrêter de regarder le film. Après, ça va se dégrader. Mais jusqu'au cabaret, c'est à peu près 40 minutes, c'est un film éblouissant.
Et alors, autrement, du coup, un autre en entier.
Hibernatus, avec moi, la seule scène de De Funès que j'ai vue des milliers de fois et qui continue de me faire rire. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez d'Audeliné de votre grosse tête. Non, je n'ai pas d'Audeliné. Et ça, rien que ça, j'y peux rien. Ça me met en joie. Et donc, Hibernatus est peut-être, en fait, pas un film d'Oury, mais encore un film de Molinaro, qui est Oscar. Parce que Oscar, c'est certainement le film de théâtre le plus dingue qu'on ait jamais tourné en France. C'est une pièce de théâtre qui est tournée dans une maison. On ne sort jamais de la maison. Il y a pas un extérieur. Enfin, si, il y a quelques plans de coupe dans la cour de la maison, devant le perron. Mais c'est vraiment une espèce de huis clos totalement hystérique. Et c'est un film qui ne baisse jamais de rythme. Vraiment cardiaque, abstenez-vous. C'est vraiment un film qui va plein pot tout du long, mais tout du long, et c'est extraordinaire. Vraiment, 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 j'adore ce film. Et pour moi, c'est un souvenir de Noël, parce qu'en voyant ce film au cinéma, j'étais gosse, et j'étais asthmatique, et j'ai été pris d'une crise d'asthme pendant le film, donc je toussais comme un dingue, et ça faisait rire les gens. Et les gens étaient ivre de rire dans le cinéma, parce que dès qu'on avait fini de rire tous ensemble, moi je toussais comme un perdu, je m'étouffais, ça sifflait, et ça les faisait marrer, c'était super sympa. Et à la fin du film, tout le monde me faisait des bisous, me tripotait les cheveux, tout ça. C'était très sympa, c'était un joli souvenir de famille.
Donc on a bien retenu, pour ce Noël 2023, le conseil de Bertrand Dical, le début de Courte Tête, Hibernatus et Oscar. Merci Bertrand Dical d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur RTL. Louis de Funès, Grimace et Gloire, c'est aux éditions Grasset, c'est l'une de vos publications. J'invite évidemment nos auditeurs à la découvrir ou à la redécouvrir. Revenez quand vous voulez.
Merci.
Merci à tous d'avoir été avec nous, merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cet épisode, Tristan Boucher à la réalisation, Thomas Pierre à l'écriture et Marie-Caroline Mandon à la production et à la programmation. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur l'appli RTL. Tous les épisodes de Confidentiel y sont disponibles en replay. N'hésitez pas.